Alors, j'ai toujours l'habitude de dire que ma capacité de donner dépend de votre capacité de recevoir. Amen. Ma capacité de donner dépend de votre capacité de recevoir. Donc, nous partageons cet après-midi sur la grande thématique « Change ton... » « Change ton... » Ce que nous avons à cœur de faire, en fait, lorsque nous aurons terminé, si Dieu le veut, parce que la révélation, comme j'ai dit, elle est progressive. Lorsque nous aurons terminé les CD 1, 2, 3, nous avons... le Seigneur m'a mis à cœur de partir en projet. Pasteur Miss, j'aimerais t'inviter à te joindre avec moi. De ce qu'on va appeler les déclarations atmosphériques. Nous voulons partir sur 12 grandes déclarations qui vont être une déclaration pour chaque mois de l'année. Mais sur ces 12 déclarations, nous voulons mettre 30 autres déclarations pour chaque journée de l'année. Et ce que je voudrais, c'est avoir différentes personnes qui vont venir lire une déclaration, qui va s'accompagner dans le CD avec de la musique, mais pour nous aider, amen, à changer notre atmosphère. Et pendant toute la semaine, je dis, Seigneur, comment j'appelle le truc? Saint-Esprit qui me dit, mais déclaration atmosphérique, pour changer les anticyclones de notre vie, pour changer nos dépressions atmosphériques. Il faut que nous puissions faire des déclarations atmosphériques. Il est temps que tu prennes possession de l'atmosphère de ta vie. Quelqu'un dit, change ton atmosphère.
Change.
Comment? Quelqu'un dit, change ton atmosphère. Quelqu'un dit, change ton atmosphère. Alors cet après-midi, nous allons parler d'un sujet important, puis quand je vais vous dire, vous allez faire un beau sourire. Contredis ton atmosphère. Contredis ton atmosphère. Ton atmosphère te dit une chose, mais je suis venu te dire que tu peux contredire ton atmosphère. La Bible déclare que quand Siméon a vu Jésus qu'on venait présenter au temple, Siméon a dit que Jésus sera un signe de contradiction. Alléluia. Voilà la parole de Dieu dans le livre de 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 à 10. Une histoire bien connue. 1 Chronique. Si vous êtes dans le 2, allez dans l'1. Chapitre 4. Du verset 9 au verset 10. Si vous l'avez, dites que nous l'avons. Est-ce que vous l'avez ce matin? 1 Chronique, chapitre 4, le verset 9 au verset 10. La parole de Dieu déclare ceci. La parole de Dieu dit ceci. Dans 1 Chronique, chapitre 4, verset 9 et verset 10, la Bible dit, « Jaïbé était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jaïbé en disant, « C'est parce que je l'ai enfanté dans la douleur. » Jaïbé invoqua le Dieu d'Israël, disant, « Si tu me bénis, et si tu étends mes limites, si ta main est avec moi, et si tu me préserves du malheur, en sorte que je ne sois point dans la souffrance. » Remarquez qu'il y a 3 points de suspension. Et Dieu lui accorda ce qu'il avait demandé. Contredis ton atmosphère. L'histoire que nous lisons ici, c'est l'histoire d'un homme. Mais au-delà de l'histoire d'un homme, c'est l'histoire non seulement de Jaïbé, qui est bien connu, qui est souvent utilisé comme personnage pour prier pour la prospérité, mais je crois qu'au-delà de ça, il faut regarder plus loin. Avant que nous puissions aller ce matin, je vous invite à vous incliner, nous allons prier. Maître de l'univers, Seigneur Jésus-Christ, toi qui gouvernes les temps et les circonstances, tu as permis que nous soyons là. Alors que ce matin, cet après-midi, j'annonce la parole à ton peuple, je m'incline devant ta royauté, devant ta seigneurie. Que l'atmosphère spirituelle de ce lieu soit dégagée. Seigneur, que tu me donnes une révélation au-delà de ce que j'ai préparé. Au-delà de ce que j'ai préparé, qu'il y ait la vie de ton esprit. Ouvre l'oreille de ton peuple, l'entendement de ton peuple. Seigneur, nous lions toute force contraire à ta parole. Nous déclenchons un mouvement de l'Esprit de Dieu en ces lieux. Et parle-nous, Seigneur, dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons celui qui vit.
Acclamons celui qui donne la parole de vérité. Alléluia. Vous voyez, à chaque fois que je prêche ce message, j'ai différents trucs qui m'arrivent. Dimanche passé, j'étais en train de vouloir le prêcher. Et ce qui s'est passé, au moment où je montais devant, puis j'ai prêché, puis les gens me disent, oh pasteur, tu étais calme. Puis moi, je disais rien. Je dis, pasteur, tu étais calme. Et je dis, en fait, c'est parce que quand je suis descendu de l'auto, mon pantalon s'est complètement déchiré et que je ne pouvais plus rentrer chez moi. J'étais obligé de prêcher tel que j'étais venu. Alors, je ne bougeais pas trop pour que, bon, la fente ne s'étende pas plus. Et c'est normal que... Alors, ce n'était pas une manifestation de la sagesse divine, mais c'était une manifestation de la sagesse humaine. Amen. Alors, derrière l'histoire de Jaïbé se cache l'histoire de toi et moi. Parce que Jaïbé est introduit. C'est un personnage que l'on connaît en fait de façon qui apparaît de nulle part. Ça se demandait pourquoi même on le cite. Mais il y a une raison pour laquelle on le cite. C'est que derrière l'histoire que nous venons de lire, c'est pas seulement l'histoire d'un homme, c'est l'histoire d'une tribu, c'est la tribu de Judas. Et il y a une généalogie qui est donnée, et dans cette généalogie, on va introduire le personnage Jaïbé, parce que derrière cette généalogie de la tribu de Judas, se cache une histoire sombre, une histoire qui n'est pas souvent cité, mais je voudrais te parler de l'histoire de la généalogie de Jaïbé pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce qui emmène ce personnage-là. Parce que nous voulons parler de contredire notre atmosphère. Contredire, c'est que l'atmosphère est en train de nous dicter comme loi, comme pression. Et quelque part, dans la descendance de la tribu de Jaïbé, il a eu un ancêtre qui s'appelait Judas. Mais je voudrais vous dire que Jaïbé est introduit dans le livre de 1 Chronique comme étant une parenthèse. Ce que j'aime de Dieu, c'est que nous pouvons passer des temps difficiles, mais parfois dans les temps difficiles que nous traversons, Dieu ouvre des parenthèses pour que tu puisses souffler. Parfois tu peux être serré financièrement, mais dans ta souffrance financière, Dieu ouvre une parenthèse pour que tu aies un break. Quelqu'un dit au Seigneur, j'ai besoin d'une parenthèse. Quelqu'un dit au Seigneur, j'ai besoin d'une parenthèse. Et l'apôtre Paul a raison de dire pour que nous ne puissions pas aller simplement de souffrance en souffrance, de douleur en douleur. Mais il arrive des moments où Dieu remarque que ta souffrance est tellement grande que lui-même ouvre une parenthèse dans ta vie pour que tu puisses respirer. Jaïbé et cette parenthèse-là dans une généalogie qui inclut David et plus tard va inclure Christ, mais une généalogie de souffrance. Amen. Je voudrais vous dire cet après-midi que il y a dans chaque famille, il y a dans chaque peuple, il y a ce qu'on appelle des traits ou des péchés qui caractérisent ce peuple. Il y a des choses qui les caractérisent. Ce sont des choses qui, d'une génération à l'autre, se répètent. Pour certains, ce sont par exemple des pactes qui ont été signés avec le monde occulte par leurs ancêtres. Dans votre généalogie, quand vous remontez, il y a quelqu'un qui pourra avoir du succès. Et je me mets parce que quand on parle de pactes, souvent, les Québécois pensent aux Africains. Mais moi, quand on parle de pactes, je pense aux Québécois. Parce que ton grand-père était un coureur de bois. Amen. Et pour pouvoir se protéger, a été quelque part voir des chamans indiens leur demandant la protection pour qu'il ait du succès. Tu es de descendance amérindienne et il y a eu des pactes qui ont été signés parce que lorsqu'ils allaient peut-être combattre contre les Français, ils voulaient avoir la victoire et ils ont décidé de livrer la prochaine génération à l'ennemi afin que tu aujourd'hui, afin que eux puissent avoir la victoire. La tragédie de notre génération, c'est que c'est une génération qui ne connaît pas sa généalogie. Et on dit souvent en français que ce que tu ne connais ne te fait pas mal. Mais moi, je vais te dire que ce que tu ne connais pas peut vraiment te faire mal et te tuer. Certaines familles sont marquées par la prostitution, Parce que vous êtes descendant quelque part, votre arrière-arrière-grand-mère était fille du roi. Et dans sa colère, elle a décidé que tous ses enfants, toutes ses filles, seraient des prostituées. Et il y a un esprit de prostitution qui se propage chez vous de génération en génération. Les traits familiales, les caractères familiales. Chez vous, tous les hommes font beaucoup d'argent, mais ils meurent tous avant l'âge de 40 ans. Ce sont des alliances de sang, ce sont les mêmes péchés qui se répètent de père en fils. Ce sont des situations chroniques, divorce, accident, pauvreté, ou dans votre famille, à chaque fois qu'une femme met un enfant au monde, le premier enfant est un mort-né. C'est parce qu'il y a un autel de sacrifice quelque part. La question qui touche les traits, les caractères familiales, générationnels, ce n'est pas une question qui touche seulement les Africains. Je vais vous parler librement. Le seul sorcier ne sont pas les Africains. Les sorciers sont aussi blancs. Les sorciers sont aussi noirs. Les sorciers sont aussi asiatiques. Car le diable veut tenir le monde entier sous sa main. Quand en Haïti, on croise un sorcier dans une hutte, en train de faire beaucoup de boucan, ici, il porte la cravate. Et il travaille à la même banque que toi. Pendant les preuves, il s'en va en voyage astral. Il est temps que nous puissions, en tant qu'enfants de Dieu, enlever la mauvaise conception que nous avons les uns des autres. Autant qu'on retrouve les sciences occultes en Afrique, autant qu'on les retrouve ici au Québec. Et le pire ici, c'est qu'on les enseigne à l'école sous l'égide de la liberté de religion, sous l'égide du choix. Qu'est-ce qui court dans ta famille? Ça peut être l'homosexualité. Tu peux être un serviteur de Dieu, mais tu as un désir du même sexe que toi. Qu'est-ce qui court dans ta famille? C'est que personne ne réussit. Et voyez-vous, je veux vous emmener à comprendre ce que je veux vous dire, qui se fondait sur les Écritures. J'aimerais parler ce matin, après avoir identifié quelques éléments, parler des travers de la famille de Judas. Les travers, c'est les... comment on dit ça? C'est quoi les synonymes? Les vices. C'est ce qui est anormal. Les travers de la famille de Judas. D'abord, la famille de Judas, Judas lui-même, toute sa généalogie, est marqué par la méchanceté. Judas est un homme méchant. La première des choses qu'on va remarquer, si vous regardez dans Genèse chapitre 38, verset 7, nous parle du fils de Judas. La Bible dit que le fils de Judas était tellement méchant que Dieu a dû le tuer. Certaines familles sont marquées par cette méchanceté qu'ils ont les uns envers les autres. Vous allez croiser un homme, il est tellement gentil avec les gens de l'extérieur. Il a l'air d'un ange. Mais dès qu'il traverse les portes de la maison, les enfants disent que le diable est arrivé. Vous avez des femmes qui sont tellement douces, jusqu'au moment où vous rentrez en relation avec elles. Elle est toute petite comme ça, mais quand elle se fâche, c'est l'incroyable Hulk qui est dans la maison. Parce qu'il y a l'esprit de colère, il y a la colère générationnelle qui est transmise d'une génération à l'autre. Et la Bible dit que le fils de Judas était un homme méchant. Et quand en tant que parent, vous avez certains traits de caractère et que vous ne faites pas attention, ces traits de caractère se transmettent d'une génération à l'autre. Et voilà, on voit certaines jeunes filles qui disent « Je ne serai jamais comme ma mère. » Le plus elle le dit, le plus elle le devient. Quelqu'un me dit « Mais tu prêches comme ton père. » Je dis « Je ne peux pas faire autrement. » Vous allez voir certaines familles, tout simplement, c'est les mêmes traits de caractère qui se répète. Ton père était un loser, t'es un loser. Ça se transmet. C'est parce que nous devons comprendre qu'au-delà d'être physique, l'homme est aussi une entité spirituelle. L'homme est plus une entité spirituelle qu'une entité physique. Et spirituellement, nous nous communiquons des choses. Spirituellement, les parents, comme ils sont en autorité par rapport aux enfants, affectent les enfants. Judas était dans sa lignée, c'était des hommes méchants. Vous vous souvenez comment les frères de Joseph l'ont vendu? Le frère Joseph est en train de pleurer, de supplier pour sa vie. Devine qui a dit vendons-le? Judas. Judas dit, mais non, il ne faut pas le tuer. On peut faire du profit sur lui. Vendons-le. Ils ont emballé leur propre frère. Le jeune homme est en train de pleurer, de se lamenter. Ils l'ont vendu. Pourquoi? Parce qu'on te retrouve dans la racine de sa descendance. On retrouve, lorsqu'on fout cette racine, la cupidité. La cupidité. Vous pouvez voir ça dans Genèse 38, le verset 15. Je mets des fondations pour ce que je vais dire tout à l'heure. On retrouve dans la famille de Judas l'inceste. Judas, c'est ce beau-père qui va aller coucher avec sa belle-fille. Et plus tard, quand vous allez dans la famille de David, vous allez voir que le frère de David va avoir une relation avec sa soeur. Oh, je vais en venir tout à l'heure. Et vous allez voir que même le fils de David, je pense c'est lequel, Absalom, va aller vers, encore une fois, les concubines de son père. Regardez comment les traits de famille se répètent d'une génération à l'autre. Est-ce que David n'était-il pas un homme selon le cœur de Dieu? Oui ou non? Est-ce que David n'était pas loin? Le fait que vous soyez en Christ ne vous protège pas de ces choses-là, si vous ne les connaissez pas. Quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. On retrouve dans cette famille-là la prostitution. Et Dieu est tellement bon. Dieu a tellement vu la souffrance de la famille de Judas que Dieu a dit, à cause de la souffrance de cette famille, je me souviens de Judas. Je vais me greffer moi-même dans cette lignée afin de corriger la lignée. Voilà pourquoi Dieu va s'arranger pour que Christ vienne de la tribu de Judas. Amen. Dieu n'a pas oublié Judas. Et j'aimerais te dire que Dieu ne t'a pas oublié. Parmi les points que vous pouvez noter, notez Genèse chapitre 37, le verset 28. Je vais vous demander juste que vous puissiez vous occuper des enfants, ça me permet juste d'être concentré dans ce que je fais. Et j'aimerais faire quelques déclarations. En fait, quand je dis ça, je n'ai pas dit concentrez-vous sur l'enfant, mais sur moi. Merci. Le parent est déjà assez gêné comme ça. Vous savez, j'ai déjà été avec mon enfant, moi, l'enfant crie là-bas. Je dis à l'enfant, c'est l'enfant de qui ça? Alors, maintenant, je vais faire quelques déclarations qui vont nous aider à passer à l'étape suivante. Est-ce que vous êtes bénis ce matin? Lorsque les traits de caractère ou les péchés générationnels ne sont pas détectés et pris au sérieux, lorsqu'ils ne sont pas éradiqués, ils se transmettent d'une génération à l'autre. Quelqu'un dit Amen. Parce que rien dans la parole de Dieu n'est mis au hasard. Ce n'est pas pour rien que cette généalogie est mise. Cette généalogie, elle est mise pour un but. Elle est mise pour que nous puissions comprendre que d'une génération à l'autre, Dieu veut nous parler. Je disais tout à l'heure que la grande tragédie de notre génération, c'est l'ignorance ou le mépris de l'histoire de notre famille. Regardez comment le diable travaille. Tout le monde est chôme et blonde. Quand tout le monde est chôme et blonde, on ne peut pas dresser un arbre généalogique. On ne sait plus d'où on vient. Donc vous vous retrouvez avec des traits de caractère, avec des problèmes dans lesquels vous ne pouvez pas remonter pour découvrir d'où vient le problème. Certains sont rendus, ont grandi avec leur troisième beau-père. Et le diable a brouillé les pistes. Oh, oh, il est méchant celui-là. Il a brouillé les pistes. Donc même si tu veux remonter, tu ne peux pas remonter plus de 20 ans en arrière. On a fermé le chemin pour que tu ne remontes pas, mais je te dis que tu peux contredire cela. Lorsque l'arbre généalogique est ignoré, le diable peut se jouer de vous longtemps, car vous ne verrez pas les symptômes. Amen. Parce que, excusez-moi, parce que vous ne verrez que les symptômes, mais vous ne verrez pas la racine du problème. Et quand vous allez dans des réunions, et en plus sur vous, vous tombez, généralement on traite avec des symptômes. Oh, je suis venu vous parler de la part de Dieu. Ce message d'échange sur ton atmosphère est une révolution dans la façon dont on fait les choses dans le corps de Christ. Voyez-vous, c'est que on traite avec le symptôme. Un mot de tête, vous pouvez prendre le Tylenol et le mot de tête va partir, n'est-ce pas? Mais si le mot de tête est un symptôme d'une tumeur au cerveau, on a traité le symptôme, mais on n'a pas traité la tumeur. Et vous mourrez d'une tumeur au cerveau. J'aimerais dire ceci. Certains traits, caractéristiques ou péchés générationnels sont comme des virus. Ils peuvent dormir pendant une génération et se réveiller pendant une autre. Pour une raison qu'on ignore, c'est que quelqu'un va juste échapper. Une génération va échapper, mais la génération suivante devra payer le double du prix. Et certaines personnes souffrent. David ne connaissait pas. David était un homme de Dieu, au moins un homme de Dieu rempli. Mais tous les traits de Judas se sont retrouvés en David. Je vous donne la preuve par la parole de Dieu, tout ce que je vous dis est vrai. Tous les traits de Judas se sont retrouvés dans la famille de David. Mais si vous suivez la généalogie de Benjamin, Benjamin n'a jamais eu aucun problème. Voilà pourquoi Saül n'a pas eu de problème d'inceste. Voilà pourquoi Saül n'a pas eu de problème de famille. Saül a eu une vie. Si vous comparez royauté pour royauté, Saül était un meilleur roi que David. La seule chose que Saül a fait de mal, c'est sa rébellion envers Dieu. Mais si vous prenez vraiment, est-ce que Saül a eu des scandales familiales? Non. Non. Mais regardez David. Il va même aller prendre la femme des autres. Tuer. Monter un coup pour tuer. Saül a eu des problèmes de jalousie. Mais si vous comparez juste, enlevez les problèmes de sa vie privée, mettez juste, vous allez voir que Saül est meilleur. Je sais que depuis l'école du dimanche, on nous enseigne que David, Saül était, mais regardez honnêtement comme des adultes. Vous allez voir que Saül, sur le papier, Saül ressort meilleur. Qu'est-ce que je veux vous dire, bien-aimé? C'est qu'il y a certaines situations qui dorment pendant une génération. Ils dorment comme des virus. Surtout quand l'ennemi se rend compte que vos yeux vont s'ouvrir pour voir l'esprit de prostitution dort. Il laisse toi servir Dieu, mais il dit, j'aurai ta génération après toi. Il te laisse être un évangéliste, il dit, c'est pas grave, mais j'aurai des enfants. Et quand cet esprit ou ces situations générationnelles, et je vous prêche par révélation, dorment, c'est que pendant qu'ils dorment, ils sont comme des virus, ils vont muter. Parce que en 1800, lorsqu'on parlait de prostitution, il n'y avait pas l'internet. Donc ils vont muter, tu vas t'ouvrir en ligne une boîte pour commencer à danser pour qu'un homme en Inde puisse te voir. C'est juste le même péché qui a juste muté. Et plusieurs chrétiens juste tombent là-dedans et ne se rendent pas compte de ce qui se passe. Il faut traiter avec la racine et non le symptôme. Je vous prie, achetez le CD, ça va vous aider. Je continue. Lorsqu'ils ne sont pas détectés ni traités ces problèmes-là, ils créent une atmosphère invisible, permanente, dans laquelle toute votre vie va baigner. Mais voici la vérité. Dans Genèse chapitre 49, le verset 18 à 12, Jacob est prêt à mourir. Jacob qui est devenu Israël. Jacob s'est rendu compte des problèmes de son fils Judas. Je vais venir à Jaïmé tout à l'heure, ne vous inquiétez pas. Jacob s'est rendu compte que Judas avait des problèmes dans sa famille, dans sa descendance. Parce que Jacob a vécu assez longtemps pour se rendre compte des travers de sa famille. De se rendre compte que cet enfant a tel problème. Cet enfant a tel problème. Parfois, les enfants pensent que les parents ne savent pas ce qu'ils sont. Un parent peut regarder un enfant et dire, toi, tu seras voleur. Et tu demandes au parent, dit, je ne sais pas pourquoi je le sais, mais je le sais. Je peux regarder deux enfants, je dis, dans cette famille, cet enfant sera prospère, l'autre vivra au crochet de son frère. Comment tu le sais? Je dis, je sais que je le sais. Mais Jacob s'est rendu compte que Judas, sa descendance, avait des problèmes graves. Voici, et Jacob va prophétiser, Jacob va parler sous l'atmosphère de la vie de Judas. Et Jacob va déclarer ceci, je l'ai résumé en quelques points. Jacob va dire que Judas sera honoré de ses frères. Parce qu'il est difficile d'être honoré quand toi-même, en tant que père, tu as commis l'inceste. Mais Dieu vient avec une solution de réchange pour toi. Jacob dit que Judas sera honoré de ses frères. Deuxièmement, Jacob dit aussi que Judas aura la domination sur ses ennemis. Alors que Judas était vaincu, Jacob le dit. Troisièmement, Jacob dit que Judas aura la force d'un lion. Amen. Jacob dit que Judas aura la victoire. Quelque part, Jacob dit que dans cette génération, nous sommes en train de souffrir. Mais il viendra quelque part dans la descendance de Jacob, celui qu'on appelle l'éternel Dieu des armées, celui qu'on appelle Emmanuel. Et au travers de lui, il va éradiquer tout ce que le diable a dit. Celui qui vient sera le signe de contradiction. Il va sonner l'heure de la fin de l'inceste familial. Il va sonner l'heure de la fin des pactes avec le diable. Christ descendra. Et quelque part, alléluia. Et quelque part, quand Jacob voit son fils en train de souffrir, Jacob peut regarder l'avenir et dit, le lendemain sera meilleur. Je vais te dire peut-être que tu souffres des choses dont tu ne connais pas l'origine, mais je vais te dire, regarde demain parce que demain sera meilleur par rapport à aujourd'hui. Il y a une solution qui peut paraître pour toi. Alors que Jacob, que Judas est en train de souffrir, il a honte devant ses frères. Jacob peut regarder et voir que aujourd'hui tu es abaissé, mais demain il y a la royauté qui te sera donnée. Je veux te dire qu'il en est de même pour ta vie ce matin. Que Dieu voit ta souffrance, mais Dieu a déjà préparé un moyen pour que tu puisses en sortir. Nous avons besoin dans notre génération d'avoir des parents qui peuvent détecter très tôt des problèmes dans la vie des enfants. Il ne suffit pas seulement de les amener au rendez-vous puis laisser Colette faire le travail. Vous avez la responsabilité de prophétiser sur l'avenir de votre enfant, de prophétiser sur leur vie, de dire à l'enfant, peut-être qu'aujourd'hui tu as volé, mais je prophétise aujourd'hui que tu es prospère au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous avons besoin d'une génération des parents qui sont des prophètes sur leur famille. D'avoir des hommes qui n'envoient pas simplement leur femme au réunion de prière et qui restent regarder des matchs de hockey. Mais nous avons besoin des hommes qui sont masculins spirituellement. Pas des hommes efféminés spirituellement. Pas des hommes efféminés, mais des hommes qui sont masculins, qui se lèvent dans leur maison et qui peuvent prophétiser un lendemain meilleur. Jacob, assis sur son lit de mort, peut voir l'avenir, peut voir un lendemain meilleur. Et je vais te dire de la part de Dieu qu'il y a un lendemain meilleur pour toi. Je prophétise que 2012 est l'année de délivrance pour toi. Je prophétise que 2012 est l'année d'accélération. En 2012, oh my goodness, my goodness, I see it. En 2012, c'est l'année de la sortie de la captivité des problèmes générationnels. En 2012, c'est l'année où tu prends un virage pour un changement radical. Comment? Lève-toi et dis, je peux le voir. Lève-toi et déclare, je peux le voir. Oh, tu peux rester fier sur ta chaise, reste, je parle de toi-même. Dis, je peux le voir. Je prophétise. 2012, une année différente. 2012, une année différente. Alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Ce n'est pas le genre de message que le diable aime, mais le diable est un menteur et se prend en te démasquer ce matin. Le diable est un menteur et Dieu est venu avec une solution. J'aimerais que tu prennes un moment, commence à prophétiser sur ta famille. Ouvre ta bouche et déclare maintenant sur ta famille. Comment? Déclare maintenant, déclare maintenant, déclare maintenant. Déclare sur ta famille, féconde Jacob. Tu peux te coucher sur le lit de mort. Tu peux dire que l'orgueil m'a mangé, que le cancer m'a mangé. Mais je déclare que la génération après moi sera libérée du cancer, sera libérée de la prostitution, sera libérée du cartomancien. Déclare-le ce matin, il y a une atmosphère favorable à la délivrance. Il y a une atmosphère favorable au changement. Déclare-le, alléluia. Alléluia, 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 alléluia. Acclamons le Seigneur, acclamons le Seigneur, alléluia. Je vous invite à vous asseoir. Je voudrais aller vous donner la dimension de ce que Dieu veut. Ce matin, honnêtement, je ne suis pas plus intéressé à être structuré. Je suis intéressé à être divinement exact. Parce que vous pouvez être très structuré dans l'homélétique et divinement rater tout ce que Dieu veut pour vous. Je vous dis ceci. Jacob est sur le lit de mort, couché. Il dit, il y a 40 années passées, j'ai été attaqué par le vol. Le vol de la bénédiction de mon frère. Mais je déclare que ça s'arrête à partir de moi. Je déclare que je suis le dernier affecté par cette situation dans ma famille. Je déclare que je suis le dernier. Je paye le prix pour que les générations après moi soient libres. Je paye le prix pour que les générations après moi ne soient pas affectées par le cancer. Je paye le prix. Le cancer a mangé mon père. Le cancer a mangé mon grand-père. Le cancer a mangé mon arrière-grand-père. L'hépatite C nous a dévorés. Oh, le cancer nous a dévorés. Mais je déclare que je suis libre. Le divorce a frappé ma mère. Le divorce a frappé ma grand-mère. Le divorce a frappé mon arrière-grand-mère. Mais je déclare que je suis libéré. Je suis libre. Les filles après moi dans ma famille sont libres. Nous sommes libérés de la prostitution. Nous sommes libérés de la prostitution générationnelle. À moi que tu ne commences à prophétiser sur ton avenir. À moi que tu ne commences à déclarer. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Il n'y a rien qui change. Je suis fatigué d'une génération de chrétiens trop polis. Trop polis. Trop polis pour crier dans l'église. Trop polis pour danser dans l'église. Trop polis pour lever les mains dans l'église. Trop important pour Dieu. Dieu a besoin d'une génération fâchée contre le diable, en colère contre les plans de l'ennemi. Dieu a besoin d'une génération en campagne pour récupérer le territoire que le diable leur a volé. Dieu a besoin d'une génération en campagne pour récupérer l'atmosphère qui leur a été volée. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Recevez maintenant. Je suis fatigué d'une génération de chrétiens intimidés par le diable. Jacob pouvait regarder et voir des milliers d'années plus tard que nous ne serons plus une génération intimidée par les sorciers, intimidée par les cartomanciens, intimidée par la franc-maçonnerie, intimidée par les mougans, intimidée par les sorciers. Jacob pouvait regarder loin et voir l'étoile de David, le rejeton, la rose de Saron, l'étoile du matin, le roi de roi, le Seigneur des Seigneurs, le Maître de l'univers, celui qui a dit, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Celui dont les Écritures disent que le Fils de Dieu est paru pour détruire les œuvres du diable. Nous sommes de la descendance de Judas. Alléluia, alléluia, comme le Seigneur. S'il y a une descendance dont j'ai besoin, c'est la descendance de Judas. Parce que c'est la descendance de ceux qui commencent mal, mais qui finissent bien. C'est la descendance de ceux qui pleurent, mais qui s'assied sur le trône. Qui s'assied dans la bénédiction. Jacob pouvait regarder et dire, il viendra un dans notre génération. qui va s'asseoir sur un trône éternel. Il en viendra un qui ne sera pas déraciné par le cancer. Il en viendra un qui ne sera pas déraciné par le diabète. J'ai besoin d'avoir ce soir une génération de chrétiens qui prophétisent. Prophétise sur ta vie. Prophétise sur ton avenir. Alléluia. Êtes-vous bénis? Êtes-vous bénis? Et c'est dans ce contexte que Jaïbet va naître. Je crois ce soir qu'il y a un Jaïbet dans cette salle. Aidez-moi à prêcher. Fais la prêcher. Je crois qu'il y a un Jaïbet. Est-ce que je peux prendre la liberté? Jaïbet est né. Jacob avait vu le changement qui allait se produire dans la descendance de Judas. Jacob avait vu Christ en train de vaincre le diable à la croix de Golgotha. Jacob avait vu David. Jacob avait dit, Judas, tu commences mal, mais tu finiras bien.
Amen.
Et la mère de Jaïbet va le mettre au monde. Et c'est là que j'arrive au cœur de ce que j'ai à dire. À cause des circonstances difficiles, elle va l'appeler Jaïbet, qui veut dire douleur. Alors que la promesse avait été lancée dans l'atmosphère. Et par ses paroles, elle va changer l'atmosphère de la vie de son enfant. Ne laissez pas les circonstances changer ce que Dieu a dit sur votre vie. Ne laissez pas les circonstances changer la déclaration prophétique sur votre vie. Soyez comme Abraham, le corps était usé. Mais la Bible dit qu'Abraham crut à Dieu, malgré son corps fini, malgré la ménopause dans le corps de Sarah. Abraham crut à Dieu et cela ne fut imputé comment? À quoi? Remarquez que cela ne lui fut pas imputé par charité, mais cela lui fut imputé à... Là, nous rentrons dans le domaine du droit. Cela lui fut imputé selon le droit divin. Beaucoup de chrétiens veulent vivre de la grâce. Moi, je veux vivre de la justice. Parce que quand je vis de la justice, c'est mon droit qui rentre en fonction. Et quand mon droit rentre en fonction, le diable est obligé de dégager le chemin. Quand mon droit rentre en fonction, les démons sont obligés de bouger. Arrêtez de vivre par la grâce, vivez par la justice. Alléluia. Quand la Bible dit que le juste vivra par la foi, c'est parce que cette foi s'appuie sur la justice. Oh, je vais finir avec vous bientôt, mais ça va être bon. Dis à quelqu'un, ça va être bon. Dis à quelqu'un, ça va être bon. Dis à quelqu'un, nous devons contredire l'atmosphère. Touche trois personnes et dis, je contredis mon atmosphère. Come on! Dis, je contredis mon atmosphère. Contredis. Si tu es trop poli, il n'y a rien qui va changer. Contredis mon atmosphère. Je contredis l'atmosphère de pauvreté. Je contredis l'atmosphère de petitesse. Je contredis l'atmosphère de la maladie. Je contredis. La promesse a été donnée. Jacob avait relâché la parole dans l'atmosphère. L'atmosphère était en train de travailler pour les fils de Judas. La preuve, c'est que David était déjà devenu roi. L'atmosphère était favorable pour la croissance. Mais la mère, voyant que les circonstances étaient difficiles, combien de chrétiens abandonnent les promesses de Dieu quand tout est difficile? Combien de chrétiens délaissent Dieu quand tout est difficile, quand il n'y a pas de lendemain? Mais le psalmiste a raison de dire que ta parole est une lampe à mes pieds. quand tout est sombre, je peux regarder à mes pieds. Et au travers des chemins sinueux de la vie, je peux voir un chemin qui se trace. Quand je suis devant la mer rouge et que tout semble bloqué, je peux faire confiance que si la mer rouge ne s'ouvre pas, Dieu peut me transporter au-dessus de la mer. Si la mer rouge ne s'ouvre pas, Dieu peut creuser un tunnel dans la mer. Et la mère, voyant les circonstances difficiles, a appelé l'enfant douleur. Elle a brisé l'atmosphère. Je vais vous donner une définition de l'atmosphère. Comme ça, on va continuer rapidement. C'est sûr que vous ne pouvez pas nécessairement me suivre, mais venez me voir pour le CD, on va vous l'envoyer, ça va vous aider. L'atmosphère, physiquement, c'est ce qu'on appelle une couche gazeuse qui entoure de toutes parts la couche terrestre, à plus de 20 lieues de distance. Mais on peut parler de l'atmosphère comme étant l'air d'un pays, d'une ville, d'un lieu. Et l'atmosphère, c'est ce qu'on appelle l'ambiance d'un lieu. Vous voyez, je commençais à prêcher, l'atmosphère n'était pas la même. Et quand je commence à dégager la parole, là, si je te dis « monte sur le banc », tu vas monter sur les bancs. Maintenant, je vais le croire. Parce que c'est la puissance de la parole qui dégage l'atmosphère, qui ouvre les lieux spirituels, qui appelle l'intervention de l'onction de Dieu. L'atmosphère est importante parce qu'elle nous permet d'avoir l'air que nous respirons et elle nous protège contre les rayons nocifs du soleil. Et un jour, je viendrai vous parler des différentes dimensions de l'atmosphère. Garde ça pour un autre jour. Alors, ainsi, on peut conclure ceci. Que l'atmosphère est importante. Parce que lorsqu'une atmosphère est maintenue dans un certain lieu, pendant un certain temps, l'atmosphère crée le climat. Le climat extérieur maintenant, c'est quoi? C'est l'hiver. Le climat, lorsqu'il est maintenu pendant un certain temps, il crée l'écosystème. En réalité, en ce moment, vous vivez dans l'écosystème. Le climat fait partie de l'écosystème. Maintenant, je viens à ce que je veux vous dire. Parce que mon but n'est pas seulement de m'exciter, mais de vous enseigner. C'est ce que le diable fait dans votre vie. Le diable veut que vous contrôliez le climat. Or, l'atmosphère affecte le climat. Et quand... Et je disais tout à l'heure que la plus grande bataille aujourd'hui dans le monde physique et spirituel, c'est le contrôle de l'atmosphère. Quiconque contrôle l'atmosphère d'un pays, d'une ville, d'une nation et même d'une église en contrôle la destinée. Alors le diable n'a pas peur que vous ayez l'église tant le chien en tant qu'il contrôle l'atmosphère de l'église. Le diable vous laissera avoir quelques bons services. Mais tant sur l'entente qui contrôle l'atmosphère. Exemple. Vous êtes avec votre mari et vous avez eu une dispute. On traite avec quoi? L'atmosphère ou le climat? Excellent. Vous traitez avec le climat. Pourquoi? Parce que le climat est temporaire, l'atmosphère est permanente. Et le diable est intéressé à des chrétiens qui aiment le temporaire. Des bénédictions temporaires. Des guérisons temporaires. Des promotions temporaires. Mais Dieu nous a envoyé Christ pour que nous puissions rentrer dans l'onction permanente. Pour que nous puissions rentrer dans la bénédiction permanente. Et le diable nous pousse à traiter avec le climat. L'atmosphère détermine notre niveau d'action et d'opération. L'atmosphère emprisonne ou libère l'onction. L'atmosphère emprisonne ou libère le potentiel. L'atmosphère affecte ce que nous sommes et ce que nous devenons. Nous sommes, en d'autres termes, le produit de l'atmosphère sous laquelle nous vivons tous les jours. Et quand nous nous rencontrons dans un lieu, il y a le combat dans l'atmosphère. Les différentes atmosphères que nous avons s'affectent. Et si quelqu'un a une atmosphère dominante, il va dominer tous les lieux. Vous allez le voir pendant la réunion, on dirait qu'il dort. Non, il fait un voyage astral. Parfois, il faut le réveiller. Frère, réveille-toi. Prions. Prie, ouvre ta bouche. Prie. Dis Jésus, Seigneur. Prie. La mère de Jaïbet était placée en autorité. Elle a déclaré une parole en nommant son fils. Elle dit, celui-ci sera appelé douleur. Et toute l'atmosphère de la vie de Jaïbet a été affectée. Quelles sont les paroles que tu prononces sur tes enfants? Tu es stupide, tu es imbécile, tu ne réussiras jamais. Viens ici mon petit cochon. Et puis, comme on est québécois, on l'appelle maudit. Combien d'histoires? Viens ici mon petit maudit. Hey, maudite journée. Eh ouais, c'est la maudite. Parce que tu contredis l'atmosphère que Dieu a créée pour toi. Voici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet de joie. Ah. Nous sommes la société québécoise, une société d'auto-malédiction. Nous auto-maudissons. Viens ici mon maudit. Il devient ici mon maudit noyé. Une société de petitesse. Hey, mon petit pite. Ça va donc, je suis ton grand pite. Oh, wow. Et c'est rentré tellement dans notre langage de tous les jours que tous les jours, monsieur et madame, tout le monde dans cette salle, relâche, pollue l'atmosphère spirituelle, relâche des émissions de gaz à effet de serre dans l'atmosphère spirituelle. Mais je suis venu vous dire qu'il est possible de faire le contraire. Amen. Et Jaïbet va se rendre compte qu'il est piégé, qu'il est captif, qu'il est prisonnier de l'atmosphère que sa mère a créée pour lui. Quelqu'un, quelque part, est prisonnier de l'atmosphère que ton ex-mari a fait pour toi. Quelqu'un, quelque part, est prisonnier de l'atmosphère que ton père qui t'a molesté a créée au-dessus de ta vie. Quelqu'un, quelque part, est prisonnier de l'atmosphère de ce qu'il a vécu dans le génocide. Les Africains sont, les Noirs sont captifs de tout ce qu'ils ont vécu, l'esclavage, la colonisation. Et ça crée une atmosphère de petitesse face aux autres races par rapport à eux. Si le Fils de Dieu vous a affranchi, vous serez réellement libre. L'affranchissement que l'homme noir a besoin de vivre, c'est un affranchissement aussi racial, psychologique. Le peuple noir est un peuple traumatisé, un peuple qui pense qu'il ne peut que passer derrière parce qu'une certaine atmosphère a été créée et nous sentons petits par rapport aux autres races. Je suis venu vous dire que Christ m'a affranchi pour que je sois libre dans mes émotions, libre dans mes sentiments. Je ne me sens pas inférieur par rapport à quelqu'un, inférieur par rapport à une race, mais j'ai été sanctifié, justifié par le même sang, la même croix que mes frères québécois. J'irai au même ciel que mes frères québécois, que mes frères français, que mes frères pakistanais. Nous serons tous dans le même ciel. Nous avons été affectés et la mère a créé une atmosphère au-dessus de son fils. Qui est contrôle ton atmosphère. Qui contrôle ton atmosphère? Certains rentrent dans le mariage et reproduisent l'atmosphère de leur père qui battait leur mère. Parce que l'atmosphère affecte ce que nous devenons. Et Jaïbet va faire quelque chose. Jaïbet se rend compte que ce qu'il vit n'est pas normal. Et Jaïbet va invoquer Dieu. Il va faire ce qu'on appelle juridiquement le contredit. Écrivez le mot contredit. Et puis quand vous irez chez vous chercher contredit juridique. Le contredit, juridiquement, c'est quand vous allez à la cour. Et la cour vous a déclaré perdant dans une cause. Et je vais parler avec un rapport au message. Le fait qu'on vous a déclaré perdant, ça crée une atmosphère autour de vous. Jaïbet se rend compte de ce que sa mère a décidé. Il se rend compte qu'il souffre et puis il fait un. J'ai besoin de créer un contredit. Anne-Marie, vous êtes juriste, n'est-ce pas? Jaïbet s'est dit, j'ai besoin de créer, de contredire ce que ma mère a dit sur ma vie. J'ai besoin de contredire l'atmosphère de ma vie. Je ne suis pas obligé de rester pauvre. Je ne suis pas obligé de rester souffrant. Je ne suis pas obligé de rester malade. Et Jabez s'appuie sur un principe juridique. Il dit ici, je n'ai pas besoin de la faveur. J'ai besoin de la justice divine. Beaucoup de chrétiens veulent vivre de la faveur de Dieu. Je voudrais vous dire que la faveur de Dieu, c'est pour les païens et les inconvertis. Ils reçoivent la pluie par grâce. Nous recevons la pluie par justice. Les chrétiens veulent vivre de la faveur de Dieu. Non, la faveur est un bienfait immérité. La justice est un droit. Il est temps de vivre du droit divin. Tu dois d'être heureux, tu dois d'être en bonne santé, tu dois d'être guéri, tu dois d'être restauré, tu dois de triompher, tu dois d'être victorieux. Quelqu'un cet après-midi a besoin de déclencher la justice divine. Le psalmiste dit avec raison, je pense au psaume 20, il dit, Éternel combat ceux qui me combattent, attaque ceux qui m'attaquent. Saisis le grand et le petit bouclier. Il est temps que tu déclenches la justice divine. Changer ton atmosphère appelle au déclenchement de la justice divine. Tu prends la Bible qui est la constitution juridique du royaume de Dieu. Tu ouvres ta Bible. En mon nom, les malades sont guéris. Seigneur, applique la justice. En mon nom, ils chasseront les démons. Seigneur, applique ta justice. C'est comme ça qu'on change l'atmosphère. Quand on commence à appliquer le contredit, contredire son atmosphère, contredire ce que le diable a dit. Le contredit biblique est tellement important que Christ est venu comme un signe de la contradiction. Il est introduit dans le Nouveau Testament comme le signe de la contradiction. Tu dois appliquer ce droit-là. Ça veut dire que vous allez à la cour te trouve coupable. C'est la cour provinciale. Où est-ce que tu dois aller? À la cour supérieure. Là où Christ est assis comme avocat à la droite du Père. Et la Bible dit avec raison que... Oh, attendez, je vais crier pour moi. Ah! Et la Bible dit avec raison que nous avons accès auprès de quoi? Du? Non, du trône. Quand on parle de trône, on ne parle plus de religion. On parle de gouvernement. On parle de politique. On parle de justice. On parle d'armée. Nous avons accès au trône. On nous a amené des religions trop catholiques. Non, quand on parle de trône, on parle de gouvernement. Nous avons accès auprès du gouvernement de Dieu. Amen. Pour faire appliquer les lois du royaume qui sont au-dessus des lois de Stephen Harper, des lois du royaume qui sont au-dessus des lois de ce monde. Amen. Quand Daniel se retrouve dans la fosse aux lions, on le jette dans la fosse, n'est-ce pas? Les lois de la nature disent que les lions doivent le dévorer. Dieu est au-dessus des lois. Dieu dit, je change l'ADN pour une nuit. Vous devez déclencher le contredit. Allez devant Dieu avec ses apparentis. Seigneur, je déclare que l'atmosphère au-dessus de moi est dégagée. Mon petit frère s'en allait à la cour dernièrement. Et il a commencé. Et il était triste en s'en allant. Et puis il m'a entendu prêcher le volume 1 du message. Et il a commencé à marcher, il dit, je déclare que mon atmosphère change. Je déclare que mon atmosphère change. Et pourtant, quand j'avais prêché, il n'était pas là, il avait écouté le CD. Et il m'a dit, au fur et à mesure que je le déclarais, le ciel au-dessus de moi semblait se dégager. Amen. Tu peux appliquer le contredit. Dis à quelqu'un, arrête de vivre de la faveur. Vis de la justice. C'est cette parabole de cette femme qui vient voir le juge unique et il dit non, applique le droit, applique le droit. Tôt ou tard, le juge a dit, bien que je ne crains pas Dieu et que je ne crains pas les hommes, mais à cause du principe de la justice. Voilà pourquoi le psalmiste dit au psaume 23 que ta houlette et ton bâton me le dirigent sur le bâton de la justice. Et quand Jacob fait la promesse, il dit que le sceptre de la justice ne s'éloignera pas de Judas. Il y a une autorité que Dieu t'a donnée que tu dois exercer. Je termine rapidement. Deuxième des choses que vous devez faire pour changer, si vous voulez contredire, vous devez appliquer ce que j'appelle le langage du commandement. On a trop de chrétiens bébés là, supérieurs. Trop de chrétiens qui se découragent à la première épreuve. Trop de chrétiens qui abandonnent dès que ça résiste. La Bible déclare qu'au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Et l'Esprit de Dieu se mouvait quoi au-dessus? Des eaux. Il n'était pas au chômage, il était au-dessus des eaux. Et la Bible dit que Dieu dit. Dieu avait remarqué qu'il y avait le chaos. Dieu avait remarqué que l'atmosphère n'était pas favorable à la vie. Quand l'atmosphère n'est pas favorable à la vie, il faut que tu dises ce que tu veux. Et Dieu a dit que la lumière soit. Il faut que la lumière soit dans tes finances, lorsque tout est sombre. Déclare que la lumière soit. Dieu ne s'est pas laissé intimider. Mais Dieu, pendant 7 jours, était assis au-dessus du chaos. Il a dit, chaos, je ne te lâche pas jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je veux. Dieu avait une vision de la terre. Tu dois avoir une vision de ta vie et déclare ce que tu veux voir. La Bible dit que pendant 7 jours, Dieu dit, Dieu dit, Dieu dit, qu'est-ce que tu dis sur ta vie? Le chrétien a une responsabilité sur sa vie. Êtes-vous béni? Je termine en disant que tu dois avoir déclenché, apprendre à parler le langage de la prière. Le seul langage que l'ennemi comprend, c'est le commandement dans la prière. Le diable ne craint pas que tu connaisses beaucoup sur la prière. Le diable n'a pas peur des grandes églises. Le diable a peur des églises qui prient. Le diable a peur des chrétiens qui prient. Les démons ont peur des chrétiens qui prient. Même un enfant qui prie est plus dangereux qu'un grand prédicateur devant. Voilà pourquoi je suis malade quand je vois des chrétiens courir après des églises où la musique est bonne. Cherche une église qui prie. Cherche une église qui prie. Cherche un pasteur qui prie. Cherche un pasteur qui jeûne. Cherche une église où il y a la délivrance. Ne suis pas une église juste pour l'ambiance. Le seul langage qui façonne l'avenir, c'est la prière. Le seul langage qui crée une atmosphère nouvelle, c'est le langage de la prière. C'est le langage du Rakamando Mosikate Mekosa Babaki Yamosata à 5h du matin. C'est le langage du combat dans la prière. C'est le seul langage que le diable comprend. La prière façonne l'avenir d'un homme. La prière façonne l'avenir d'une nation. La prière est éternelle. Elle survit à ceux qui l'ont prononcée. Tu peux contredire ton atmosphère. Tu peux contredire ton atmosphère. Lève-toi. Et tiens-toi comme un commandant en chef sur ta destinée. J'ai toujours dit que je n'ai pas un problème que le diable me vole ma destinée. Tant que Dieu m'a prédestiné, je n'ai aucun problème. J'aime mieux traiter avec le pré de Dieu que le dé des hommes. Vole-moi ma destinée. Tant que Dieu m'a prédestiné, tu ne peux rien faire. Il est temps que nous puissions avoir une mentalité différente. Protéger notre atmosphère. Il y a des gens qui nous donnent la dépression atmosphérique. Il est temps de protéger. Il est temps de cesser de traiter avec le climat, mais d'agir au niveau de l'atmosphère. Quand l'atmosphère est changée, le climat peut être changé. Quand l'atmosphère est changée, l'écosystème peut être changé. Le diable n'a pas peur de nos églises parce que nous travaillons sur les symptômes du problème et non sur le problème. Il est temps d'affecter le climat spirituel de nos églises. Pas des climats où les gens rentrent avec des mains sèches et sortent avec des mains sèches. Pas des climats où les gens rentrent paralytiques et sortent paralytiques, mais des endroits où l'atmosphère spirituelle a été dégagée. Je termine en vous citant cette parole de Yonggi Cho, le pasteur d'une des grandes églises du monde. Il dit qu'en Corée, l'atmosphère spirituelle a été changée. Je voudrais vous inviter à vous lever ce matin. Attends le Seigneur. Tu n'as pas besoin d'imposition de main. Tu n'as pas besoin d'imposition de main. Ce que tu as besoin, c'est la révélation de la parole qui sème en toi une sainte colère, une révolution dans l'esprit. Je suis fatigué des gens qui se promènent avec des gros titres, apôtres, prophètes, docteurs, mais qui prennent en otage l'atmosphère spirituelle du peuple de Dieu. Nous avons besoin d'une génération de serviteurs de Dieu qui libère l'atmosphère des gens. Inclinons-nous et prions. Commence à prier là où tu es. Sens comment l'atmosphère est dégagée. Sens comment l'atmosphère est dégagée. Ouh, yes. Hallelujah. 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 De contradiction par rapport à tout ce que le diable est en train de faire. Nous ouvrons les yeux de ton peuple et nous les équipons pour qu'ils soient capables de discerner les plans de l'ennemi et, Seigneur, de les contrer au nom de Jésus de Nazareth. Amen.
Amen.
Acclamons le Seigneur. Acclamons le Seigneur très fort.